de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, dans cette séance, je vous propose de poursuivre notre aventure et notre parcours dans les grandes vertus. Et puis, je continuerai de recevoir, pour la dernière fois, le père Nicolas Tchernocrate et Oriane. Et enfin, j'aurai quelques musiques à vous proposer. Vous le verrez, tout à fait originales et stimulantes. La dernière fois, je vous ai parlé du courage, en montrant comment cette vertu est une médiation entre la prudence qui fait descendre le ciel sur la terre et la justice que nous allons voir aujourd'hui et qui permet à la terre de monter vers le ciel. La caractéristique de la justice, c'est qu'elle est à cheval entre la société des hommes et d'autre part la divine société. La justice, c'est d'abord la manière que l'on peut avoir de régler non pas simplement l'action personnelle, mais l'action collective. Et pour régler cette action collective, il faut deux choses. Il faut autant l'égalité que l'inégalité. C'est quelque chose avec à quoi nous ne sommes pas habitués. Pour nous, la justice, c'est avant tout l'égalité, et l'inégalité nous paraît totalement opposée à l'injustice. Attention à cette erreur. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Et bien évidemment, c'est l'égalité de droit. Et cette égalité de droit, il ne saurait être question de la contester. Lorsque, face à la loi, certains sont privilégiés, pas d'autres, nous sommes scandalisés et nous avons raison de l'être. Tout le monde doit être traité de la même façon devant la loi. Mais attention, la justice, c'est aussi le mérite, rendre à chacun ce qui lui revient et non pas simplement donner trop à ceux qui ne font rien et trop peu à ceux qui font quelque chose. D'où la relation qu'il y a dans la justice entre d'une part l'égalité et d'autre part l'équité. Il faut de l'égalité, mais il faut aussi de l'équité. Il faut donc savoir à la fois jouer avec l'égalité et l'inégalité sans sacrifier l'égalité et sans sacrifier non plus l'équité. Dans la mise en pratique de la justice, cela se voit par la notion de devoir. Je crois que on respecte la justice et on parvient à unir ensemble le sens de l'égalité, le sens de l'équité, lorsque nous pensons la justice non pas comme un droit, mais comme un devoir. Un devoir qui est un devoir à l'égard de la société, un devoir à l'égard des hommes et de leur conscience, mais aussi un devoir à l'égard du ciel, de la transcendance et de Dieu. Nous avons à respecter la société dans laquelle nous sommes, et nous sommes juste dans la mesure où nous respectons les règles sociales, ce qui se fait dans la société et qui permet à la société des hommes de pouvoir se développer. Les sociétés ne sont pas forcément négatives. Arrêtons de voir dans la société un pouvoir qui opprime. Les sociétés manifestent le désir de vivre incarné d'une manière collective, et ce désir de vie est toujours bon et juste. C'est pour ça que Descartes disait qu'il fallait respecter les règles et les lois et la religion du pays dans lequel on était né. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces règles qui permettent de vivre, cette religion qui permet de vivre, cette morale qui permet de vivre, elle est bonne. Et on est juste en respectant cette morale. Ensuite, il y a la justice au sens moral. Et c'est là qu'on va retrouver la relation entre l'égalité et d'autre part l'inégalité. Qu'est-ce qui caractérise la conscience vraiment morale ? C'est qu'elle traite à la fois chacun selon ce mérite et tous selon le droit. Et elle ne traite pas tout le monde sans oublier chacun ou chacun sans oublier le tout. Elle harmonise la relation entre le tout et la partie et le tout qui est à la base de l'intelligence. Et c'est vrai que la conscience morale intervient quand à un moment celle-ci se demande si elle a su respecter le tout ou bien encore si elle a su respecter chacun. Enfin, il y a une justice supérieure qui est la justice céleste, la justice divine. La justice divine ne consiste pas simplement à agir d'une manière juste en termes d'égalité ou d'équité, mais elle agit selon l'être. Et il y a deux manières d'agir selon l'être, celle que l'on peut retrouver en Orient avec le Tao de Lao Tzu, ou bien encore, nous le verrons, avec l'admirable prière de l'artisan. Comme le dit le Tao, il y a quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Ce quelque chose est muet et vide, il est indépendant et inaltérable, il circule partout sans se lâcher jamais. Il est la mère de l'univers. Et le Tao de continuer, le regardant on ne le voit pas, on le nomme l'invisible, l'écoutant on ne l'entend pas, on le nomme l'inouï, le touchant on ne le sent pas, on le nomme l'impalpable, ces trois états étant indéchiffrables, ils s'unissent dans l'un. Caractéristique du juste, celui-ci dans l'être obéit à l'être et se dépouille de tout pour être un constamment. En se laissant guider de l'intérieur par l'être. Il est important d'apercevoir que ce que l'on trouve comme sens du dépouillement, on peut le trouver dans cette admirable prière de l'artisan, véritable chef-d'œuvre qui redit autrement quelque chose que l'on retrouve dans la sagesse du Tao. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler à bien l'employer, sans rien en perdre. Apprends-moi à bien tirer parti des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à tenir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur, à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout, comble toi-même les vides de mon œuvre. Dans tout le labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde-moi l'espérance de la perfection sans laquelle je perdrai cœur. Garde-moi dans l'impuissance de la perfection sans quoi je me perdrai d'orgueil. Purifie mon regard quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, là où il y a du travail, et que tout travail est vain, sauf là où il y a amour, et que tout amour est creux, qui ne me lie à moi-même, aux autres et à toi, Seigneur. Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Quand, si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je le fais pour plaire aux autres comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire le bien est ta gloire. Seigneur, c'est tout de suite. Amen. C'était un chant exécuté par les moines du monastère de Simonos Petra au Mont Athos lors d'une liturgie dédiée à Saint Silouane. Chers amis, tout au long de ce mois, nous avons cheminé avec le Père Nicolas, recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, rue Le Courbe, dans le 15e à Paris. Avec Oriane, l'une des paroissiennes, nous avons parlé de l'Institut Saint-Serge, nous avons parlé de Saint-Séraphin de Sarov, nous avons parlé de la conversion, chacun s'est présenté à travers son itinéraire. Je voudrais qu'on termine en parlant de choses dont nous avons commencé l'évocation. Lorsque nous avons parlé de la conversion, nous avons parlé de l'esprit, du souffle de l'esprit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. On parle beaucoup de spiritualité aujourd'hui. Et j'ai en mémoire le journal du Père Schmemann, qui était finalement assez opposé à la notion de spiritualité. Et il y a des moments où j'ai assez envie de lui donner raison. J'ai assez envie de lui donner raison. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on parle à tort et à travers de la spiritualité, en disant la religion c'est mal, la spiritualité c'est bien. Et j'ai l'impression qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est. Et donc je voulais savoir votre sentiment. Cher Père Nicolas, comment vous réagissez par rapport au terme de spiritualité ?
Je pense que c'est un peu un mot fermé. Spiritualité, c'est trop vaste. Et on ne sait pas à quoi on pense, parce qu'il y a la spiritualité un peu partout.
Il y a toutes les spiritualités, il y a à boire et à manger.
Voilà, et je pense que quand même la tradition biblique ou la tradition néo-testamentaire en tout cas, et dans la tradition de l'Église, dans les écrits patristiques, nous parlons plutôt la vie en esprit que de spiritualité. C'est le mot est très long et on ne sait pas exactement. Il faut trouver les mots pour transmettre le message. Et donc je pense que nous en fait, le langage, on dit vivre par la grâce de l'esprit. L'esprit que, si on lit l'évangile de Saint Jean, que Christ va envoyer, cette paraclet, donc qui va le dire ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Donc la place de l'esprit a la place presque dans l'existence de la vie des croyants. Donc c'est lui qui est la bouche. Vous voyez, Pentecôte, donc la descente de l'esprit.
On pourrait dire un peu ce que dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est lui qui vit en moi.
Voilà.
Et donc lui qui parle à travers moi.
Voilà, exactement. Ah. Exactement. C'est dans ce contexte-là qu'il faut voir la place de l'esprit dans la vie personnelle et dans l'Ecclésia. Dans la vie, entre nous, il y a cette communion à travers l'esprit entre deux personnes qui communient. Et donc, comme je disais la dernière fois, Paul il a bien dit, même pas, on ne peut pas dire que le Christ est Kyrios si on ne dit pas en esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire en esprit? Donc voilà, c'est une énergie, c'est une sorte de lumière, c'est quelque chose, une force qui est indescriptible, parce que l'esprit, on ne peut pas ni toucher ni voir. N'est-ce pas? Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui se vit profondément à notre foi en Dieu. Et bien, c'est lui qui est Odigos. C'est lui qui est celui qui nous conduit vers Dieu pour dire Abba Père.
Voilà. Il me semble que dans l'esprit, il y a premièrement la présence, mais deuxièmement la présence de la présence qui fait que vraiment on est dans la présence. Vous savez, quand on dit voilà, lui, c'est pas simplement Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si je dis attention, lui, c'est pas simplement quelqu'un qui va parler de la foi, mais c'est vraiment comme si c'est Dieu qui est là. Il est donc vraiment dans l'esprit. Et quelque part, l'esprit et la chose même, c'est la même chose.
Oui,
Et à un moment, vous savez, les musulmans ont une très belle définition de la différence entre le prophète et le Christ. Il dit le prophète, c'était l'ami de Dieu. Et le Christ, c'était l'Esprit de Dieu.
L'esprit
c'est quand même
de
magnifique
Dieu.
De dire ça.
Porteur de l'Esprit.
C'est vraiment
nous disons qu'il
lui,
est porteur.
Voilà. Oriane, comment vous voyez la chose ?
Alors, sur la spiritualité, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup de nos jours, qui est un peu fourre-tout quand même. Moi, ce qui me gêne un peu dans ce mot, c'est que finalement, il divise, il cloisonne un peu trop. C'est-à-dire comme si on entend dire, en fait, ma vie spirituelle et puis ma vie à l'école ou dans mon travail. Et au fond, l'idée, c'est au contraire, en fait, d'inclure toute chose et de diviniser toute chose et tout acte. Donc, c'est vrai que cette spiritualité, je trouve qu'elle est, elle sépare plus que elle porte du fruit, en fait. Donc, c'est vrai que le mot est vraiment à redéfinir de quoi on parle, en fait, au fond. De quoi on parle, et c'est vrai, je vous rejoins complètement, c'est est-ce qu'on parle en esprit ou pas ? En fait, c'est vraiment là la question.
Au Mont Athos, il parle de la pneumatique isoï, c'est-à-dire de la vie pneumatique. Et ce que je trouve formidable, c'est que personne n'osera dire de lui-même qu'il est spirituel ou qu'il vit la spiritualité. Ils le disent d'un saint homme qui vit en de prière nuit et jour. Et donc, c'est moi, ma réticence était de dire, écoutez, vous parlez n'importe comment de spiritualité, parce que vous vous rendez pas compte, arriver à l'esprit, c'est vivre nuit et jour la vie divine, c'est être dans la prière, d'être embrasé, d'être devenu le feu vivant. Là, je veux bien qu'on parle de spiritualité, mais le paradoxe, c'est quand on parle de spiritualité, ça n'est même plus du spiritualité, c'est le feu du ciel qui descend sur la terre.
Dans l'aspect liturgique, je donne un exemple, par exemple, pour le baptême. Évidemment, tous les chrétiens, donc c'est base de la naissance par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et au début, il y a cette chasse de lui, tout esprit impur, qui se cache dans son cœur. Et donc, après, il y a le baptême, etc. Et tout ça, ça se termine, ce qu'on appelle, dans la tradition occidentale, confirmation, dans la tradition byzantine, chrismation. Et donc, c'est avec cette chrismation qu'on dit le sceau du don du Saint-Esprit. Le sceau du don, donc, comme l'homme devient pneumatophore. Donc l'homme devient pneumatophore, et c'est-à-dire, ce sont les dons de l'esprit, sous le front, sous les yeux, sous les narines, sous la bouche, sous la poitrine. Donc l'homme devient pneumatophore. Et je dirais, le but de la vie chrétienne, de découvrir les dons que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire découvrir les dons que Dieu nous a donné. Donc, c'est quelque part, il faut redécouvrir quelque part pour les baptiser. Donc, et quand on découvre les dons que Dieu nous a donnés, eh bien, c'est sous ces dons ce qui nous est donné, ce qui nous est propre, que nous nous construisons. Donc, il y a une sorte de récréation, reconstruction, seulement en esprit de Dieu.
Donc, et alors?
Voilà, donc c'est important de dire, peut-être...
Je crois qu'aussi c'est important, et j'aimerais qu'on termine par là. Moi, j'ai rencontré deux êtres dont on pouvait dire qu'ils étaient spirituels, c'est pas n'importe lesquels. C'était le père Sophronie, où on sentait que vraiment il était porteur de l'esprit dans sa manière de parler, et Monseigneur Antoine Blum. Alors là, j'ai vu l'esprit dans le monde. Et vous avez eu des rencontres?
J'ai connu très bien aussi Père Sophronie, beaucoup plus que Monseigneur Antoine Blum, mais je porte dans ma vie une rencontre, je suis resté presque un mois, une heure et demie, ou même plus, avec lui dans la conversation. Ça m'a impressionné.
La manière dont il parlait, c'était tellement extraordinaire.
Oui, c'était vraiment extraordinaire. Donc oui, c'est un homme, oui, c'était un moine, c'est un homme dans la quête, dans la recherche, dans l'intégration.
Était totalement vécu. Oriane, vous avez vu
Je ne sais pas pourquoi, moi je suis en train de penser à une amie qui est devenue une sœur en Christ, qui était à Saint-Julien-le-Pauvre, qui était une femme assez simple, qui m'a beaucoup appris. Et voilà, il n'y avait pas ce côté intellectuel, en fait, mais il y avait vraiment tout ce qu'elle faisait. On avait le sentiment que c'était l'esprit qui parlait. parler, même dans la manière dont elle recevait les gens, dont elle faisait la cuisine.
C'était spirituel.
Et il y avait un vrai enseignement dedans, sans parler même, uniquement en accueillant. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment.
J'ai eu l'occasion de rencontrer en Roumanie une mère que vous devez connaître, la mère Siloana. Et la mère Siloana est venue avec mon livre « Retour à l'émerveillement » que vous avez apprécié. Et elle me disait « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » Et là, je me disais, alors elle, si elle trouve ça formidable, c'était très bien. Ouais. Voilà, donc il y a des êtres comme ça spirituels. Et puis le père Paizos que j'ai rencontré, et ce qui m'avait frappé quand je l'avais rencontré, c'est la simplicité qui émanait de lui, la simplicité.
Pardon. Oui. Il y a aussi actuellement, on peut le voir sur YouTube, le père Thaddée. Oui. Il parle en grec et il est traduit donc en français. Et à chaque fois, je n'écoute même plus ce qu'il dit, mais j'ai simplement de le voir. Là, on voit vraie manifestation de l'esprit. Et tout est effectivement simple. On a l'impression que c'est l'innocence de l'enfant. La douceur, la simplicité et la joie et le sourire. Et c'est certainement les marques de la spiritualité et de la présence de l'esprit.
Et il y a des moments où on dit « Dieu est là ».
Dieu est là.
Donc ça tout fait. Merci beaucoup. Et pour terminer cette émission, à nouveau, ce chant dédié à Saint Siloane par les moines du monastère de Simonos Petra au Mont Athos.
Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτό εν στερεώματι της δυναμέως αυτού. Yeah.
Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.